À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour.
Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Ce soir, très heureux de vous retrouver pour notre nouvel épisode autour de notre histoire juive. Un épisode bien connu en France qui s'appelle, vous le savez maintenant, l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus était un juif, capitaine au sein de l'armée française. Homme sans histoire, marié et père de deux petits-enfants, Alfred travaillait avec beaucoup de cœur pour l'armée française. Mais du jour au lendemain, le capitaine Dreyfus est injustement accusé. Son crime, avoir soi-disant donné aux Prussiens des informations top secrètes sur l'armée française. Ceci est totalement faux, bien sûr. Mais tous, au sein de l'état-major, vont s'acharner sur Dreyfus. Ils n'ont pourtant aucune preuve contre lui. Mais Dreyfus est juif, et cela dérange à l'époque. Beaucoup de Français sont antisémites et sont très mécontents de voir qu'un juif et pu accéder au rang de capitaine. C'est pourquoi de nombreux membres de l'armée vont accuser Dreyfus. Le général Mercier, le général Boisdeffre, l'officier du paty de Clam. Un procès est organisé et le capitaine Dreyfus est condamné à une peine terrible, l'exil sur la lointaine île du Diable en Guyane. Là-bas, Dreyfus est isolé, enchaîné, affamé. En France, tous se réjouissent. Le coupable a été démasqué. Mais depuis le début, certains hommes dans l'ombre vont tout faire pour libérer le capitaine. Sa femme Lucie, bien sûr, mais aussi son frère Mathieu, qui va remuer ciel et terre pour faire libérer son frère, car il sait qu'il est innocent. Et petit à petit, les choses commencent à bouger. Au sein même de l'armée, le nouveau colonel, Picard, parvient à découvrir le vrai coupable. C'est Esterhazy. Hélas, quand le colonel Picard cherche à dire la vérité, l'armée le mute en Tunisie pour le faire taire. Le commandant Henri va même inventer de fausses preuves contre le capitaine Dreyfus. Pire encore, ce même commandant Henri va essayer de salir la réputation du colonel Picard. « N'écoutez pas le colonel Picard, » dit le commandant Henri à tout le monde. « Il n'arrête pas de dire que Dreyfus est innocent. »«
S'il avait raison, » demandent certains.
« Mais non, » affirme le commandant Henri, des éclairs dans les yeux. « Dreyfus est coupable, un point c'est tout. » Picard n'est qu'un menteur, ne le croyez pas.
Et le commandant Henri va même fabriquer de fausses lettres pour faire croire que Picard est un complice du capitaine Dreyfus. Que les Juifs, soi-disant, paieraient Picard pour faire libérer Dreyfus. Mais les enfants, on peut essayer de cacher un mensonge. Viendra le jour où la vérité éclatera. Et c'est ce qui se passe, Baruch Hashem. Mathieu, le frère de Dreyfus, continue inlassablement ses recherches pour prouver que son frère est innocent. Et comme le dit la Torah, « Yagati ou Matsati ta'amin ». Si on te dit que j'ai cherché et que j'ai trouvé, tu peux le croire. Mathieu Dreyfus a interrogé des dizaines de personnes et finalement, la vérité éclate. C'est Esterhazy le vrai coupable. C'est lui l'auteur du fameux bordereau. C'est lui qui transmet des informations top secrètes aux Prussiens en échange d'argent. En France, le scandale menace d'éclater. Mathieu Dreyfus a déjà déposé plainte contre Esterhazy le vrai coupable auprès du ministre de guerre. De son côté, Esterhazy, qui comprend qu'il a été démasqué, n'arrête pas d'envoyer des lettres au président de la République.
de leur côté. Les hommes qui soutiennent Dreyfus sont de plus en plus nombreux. On les appellera les Dreyfusards, car ce sont eux qui ont défendu Dreyfus durant toute cette affaire. Mathieu Dreyfus, bien sûr, le frère du capitaine et le premier Dreyfusard. Avec lui, il y a le journaliste Bernard Lazare, qui avait déjà écrit un article dans le journal au sujet de Dreyfus. Il y a aussi le journaliste et homme politique Joseph Reynard et l'écrivain Schorer Kestner. Les écrivains, les enfants, ont un grand pouvoir. Ce qu'ils écrivent est lu par beaucoup de monde, surtout à l'époque où la télévision et la radio n'existaient pas. Les gens lisent énormément les journaux et tout le monde se passionne pour l'affaire Dreyfus. C'est pourquoi les Dreyfusards écrivent beaucoup d'articles dans les journaux pour prendre la défense de Dreyfus et convaincre les gens qu'il est innocent. Hélas, certains journaux refuseront de faire paraître ces articles, car ils ont peur que leurs lecteurs, dont beaucoup sont antisémites, se désabonnent. Pourtant, les écrivains s'efforcent de frapper à toutes les portes pour faire paraître leurs articles. « Il faut faire une révision du procès », affirment ainsi Octave Mirabeau, Anatole France et le célèbre Émile Zola. Tous ces noms, les enfants, vous disent sûrement quelque chose, car ce sont souvent des noms de rue ou d'avenue. Mais justement, on a donné ces noms de personnages célèbres à des rues pour ne jamais oublier que ces hommes extraordinaires ont agi courageusement pour défendre l'innocence de Dreyfus. Et c'est ainsi que, faute de choix, la justice est obligée de lancer une enquête sur Esterhazy. On envoie le général de Pellieu pour enquêter sur Dreyfus. Mais quand le général de Pellieu se met à enquêter sur le vrai coupable, Esterhazy, l'état-major lui ment.
« Mais non !» lui dit-on. « Vous faites fausse route. C'est Picard le vrai coupable. Il n'arrête pas d'accuser Esterhazy. Mais en fait, c'est Picard lui-même le vrai coupable. »«
Ah ?» répond le général de Pellieu.
« Bon, ok. Si vous me dites qu'Esterhazy n'est pas coupable. »
C'est alors que l'ancienne femme d'Esterhazy publie quelque chose d'incroyable. Elle fait paraître, dans le journal Le Figaro, des lettres d'Esterhazy. Des lettres où l'on peut lire toute la haine d'Esterhazy envers la France.
« C'est affreux !» pensent les Français. « Un homme qui dit tellement de mal sur la France, ce n'est pas étonnant s'il a trahi l'armée française. »
Hélas, des gens haut placés protègent Esterhazy.
Ces anti-Dreyfusards, ces hommes qui n'aimaient pas Dreyfus parce qu'il était juif, se mettent à défendre le vrai coupable Esterhazy.
Mais les Dreyfusards ne se laissent pas faire et écrivent de nombreux articles. Georges Clemenceau, un écrivain Dreyfusard, écrit même dans le journal L'Aurore. Qui protège le commandant Esterhazy? Qui donc le tremble devant Esterhazy? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l'accuse? Pourquoi un honnête soldat, comme le colonel Picard, est-il discrédité, accablé, déshonoré? S'il le faut, nous le dirons.
La vérité éclate. Esterhazy avoue finalement qu'il a bien écrit des lettres terribles. Ces fameuses lettres que son ex-femme a dévoilées au journal. Ces lettres dans lesquelles Esterhazy dit beaucoup de mal sur la France. L'état-major grogne. Il n'y a pas le choix. Il faut faire le procès d'Esterhazy. Mais ce procès n'est qu'une mascarade, un faux procès. Durant ce procès, on fait tout pour protéger Esterhazy. Au bout de 3 minutes, on applaudit Esterhazy et on le déclare innocent
devant une foule de 1500 personnes qui l'attendent à l'extérieur. La France tout entière est choquée. Un innocent a été condamné alors que le coupable est relâché et applaudi. Les Dreyfusards se plaignent et se révoltent. En réaction, de nombreuses émeutes antisémites ont lieu dans toute la France. Les antisémites s'en donnent à cœur joie, frappent des juifs dans la rue, leur volent leurs affaires. La France sombre dans le chaos. Les antisémites ne veulent pas que la vérité éclate. À la place, l'état-major décide d'arrêter le colonel Picard. Le colonel Picard, qui s'est pourtant battu pour la vérité, lui qui a réussi à trouver le vrai coupable, est emprisonné au fort du Mont Valérien. Et pendant ce temps, on envoie le vrai coupable Esterhazy en Angleterre, où il coulera des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie. Oui, les enfants, c'est injuste. Mais c'est pour ça qu'Hachem nous a mis dans ce monde. Pour réparer l'injustice. Quand on est face à quelque chose d'injuste, on ne doit pas rester et regarder sans rien faire. Ou dire que cela ne nous regarde pas. On doit agir dans la mesure du possible. Et Hachem nous aide quand il voit qu'on se bat pour le Tzedek, pour la justice. L'affaire n'est pas terminée, les enfants. Un homme très courageux, dont vous avez certainement entendu parler, va entrer dans la bataille pour défendre le capitaine Dreyfus. Cet homme, c'est Émile Zola. Ce qu'il va faire, vous le saurez au prochain épisode. Cette histoire est dédiée Léelou Nishmat, Suzy Messaouda, Batraï Matayesh, Aléa Shalom. J'aimerais aussi dédicacer cette histoire pour notre cher Mendele. Oui, un enfant extraordinaire, Mendele Gourovitch, un fan d'À chaque enfant son histoire. Nous te souhaitons de commencer ta 7e année avec beaucoup de réussite, en nous apportant beaucoup de nachat et de joie. Continue à être un super frère pour Shlomi, Yehoshua, Hana, Nissan et Sender. Mazal Tov de la part de tes parents qui t'aiment très fort et Mazal Tov au passage à Rani Azoulay pour ses 5 ans et à Mouchki Nemanov. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, toujours en plein suspense. Je vous dis Laila Tov, très bonne nuit et Bezrat Hashem à demain. On se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.